VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence pour la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. On connaît maintenant l'affiche des deux premiers quarts de finale. Ce sera Burkina, Tunisie et Sénégal, Cameroun. Au programme ce mardi, en groupe C, deux matchs très importants. L'un à Ouyem et l'autre à Port-Gentil. À Ouyem, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions de titre, affrontent les lions de l'Atlas du Maroc. Coup de projecteur sur le match avec Amin Mabrouk.
Tout à fait, c'est un match à quête double entre le tenant du titre et le Maroc. La Côte d'Ivoire, qui reste sur deux matchs nuls, a l'obligation de l'emporter face à une sélection marocaine retrouvée, qui n'a, elle, besoin que d'un point. Les deux équipes ont leur destin en main. Côté ivoirien, à l'exception de Lamine Koné, Michel Dissouillet devrait bénéficier de, je dirais, de tout son groupe, ou pouvoir compter sur tout son groupe, alors que côté marocain, on ne déplore aucune blessure. Sur le plan mental, les Marocains ont un obstacle à franchir, n'ont jamais réussi à passer le premier tour depuis la CAN 2004, alors que les Ivoiriens ont pour habitude de jouer des premiers rôles dans cette compétition. La Côte d'Ivoire, c'est une génération qui s'est gagnée. Côté marocain, c'est le syndrome de l'échec qu'il va falloir dépasser. Hervé Renard est venu avec cet objectif. Pourra-t-il réussir cette prouesse? Côté ivoirien, est-ce que Michel Dussuyer saura transcender ses troupes? Verdict tout à l'heure à 19h GMT. Depuis Ouyem au Gabon, Amine Birouk pour VOA Afrique.
À Port-Gentil, RDC contre le Togo, les Léopards congolais, leader du groupe, jouent à l'aise face aux éperviers togolais en dernière position. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il leur suffit d'un nul au minimum ou au mieux d'une victoire pour se qualifier. Les Léopards qui, depuis le début de cette campagne dans le groupe C, chapeautent le groupe, sont leaders. Ils ont 4 points pour l'instant. Mais malgré tout, Florent Ibengue a dit et répété qu'ils doivent absolument chercher à gagner ce match pour éviter tout score piège. Ils doivent chercher à battre cette équipe du Togo pour éviter que derrière il y ait des complications et des calculs qui pourraient les mettre en ballotage défavorable. Et on attend voir ce que ça va donner. En tout cas, au moment où je vous parle, je suis au stade de Port-Gentil. Les équipes sont sur place en train d'essayer de travailler, de rendre cette pelouse la plus praticable possible afin que le spectacle n'en souffre pas. On verra bien ce que ça va donner d'ici 19h temps universel. Depuis le stade de Port-Gentil, ici au Gabon, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au programme demain, en groupe D, à Ouyem, le Mali face à l'Ouganda. Coup de projecteur sur les aigles maliens avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0 but partout, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour les quarts avec 6 points. Les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grises ougandaises. Une telle victoire améliorerait leurs chances d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les Aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les Pharaons, un match où les Égyptiens mettront toute leur force dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, les Grises ougandaises déjà éliminées, mais qui aimeraient rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les Aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017. Il ne leur reste plus qu'à jouer leur meilleur football et prier pour un miracle. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger se rencontrent aujourd'hui à Niamey à la 2e conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région de l'Ibtako-Gourma. Il s'agit surtout pour ces chefs d'État de discuter des moyens de combattre ensemble le terrorisme à leurs frontières communes. Par ailleurs, les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale Niamey sont en grève depuis hier pour une période de 5 jours. Les grévistes entendent par ce débrayage exiger le paiement de 6 mois d'arriéré de salaire. Le mouvement a commencé par un sit-in à l'hôtel de ville de Niamey. Reportage de notre correspondant sur place, Abdou Razak Idrissa.
Les travailleurs des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur énième mouvement de grève. Ali Gatti est le coordonnateur des 5 syndicats des travailleurs des municipalités de la capitale.
Tout le monde en a marre. Tout ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Tout le monde est prêt. Parce que pour la mort, on n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. À la maison, on est des femmes. Devant nos femmes, nous aussi, nous sommes des femmes parce qu'un responsable d'une maison qui ne donne pas les frais de Kouadama, lui aussi, il devient une femme.
Puisque leur autorité hiérarchique directe ne semble pas avoir de solution, certains sollicitent une implication à un niveau beaucoup plus élevé.
On voulait rappeler au président de la République, Mohamed Issoufou, qu'il pense à nous. Pitié, 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 pitié. 7 mois sans salaire, c'est pas 7 jours.
Cette situation-là est très difficile, est très très difficile. Si vraiment le président peut intervenir dans cette histoire-là, il n'a qu'à intervenir parce que on ne peut pas vivre et travailler pour l'État pendant 7 mois sans avoir le salaire.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Gambie, l'ex-président gambien Yaya Jammeh pourra garder en exil sa collection de 13 automobiles de luxe qui doit être transportée par avion cargo en Guinée équatoriale. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Alifa Salah, un porte-parole du nouveau président gambien Adama Barrow. M. Salah a souligné qu'un accord avait été conclu en ce sens pour faciliter le départ de Yaya Jammeh du pays samedi dernier. Autre objectif, selon le porte-parole, réduire la possibilité d'aller et venue continuelle de l'ex-leader en Gambie pour récupérer ses biens. Au plan politique, une ancienne ministre du régime de Yaya Jammeh a été nommée vice-présidente du pays par le président Adama Barrow. Ce dernier est encore au Sénégal voisin où il séjourne depuis le 15 janvier. Et la date de son retour au pays natal n'est pas encore fixée. Jean-Roger Bion.
Malgré le départ en exil de Yaya Jammeh samedi soir, qui a mis fin à 6 semaines d'une crise provoquée par son refus d'accepter les résultats de la présidentielle, la date du retour en Gambie du nouveau chef de l'État n'est toujours pas connue. Mais M. Barrow a commencé les consultations pour désigner son équipe et a nommé à la vice-présidence une responsable de sa coalition, Fatoumata Diallo Tambajang, a annoncé lundi son porte-parole Alifa Salah à la presse à Banjul. Militante des droits des femmes ayant notamment travaillé pour l'ONU, Mme Tambajang a été ministre de la Santé durant la présidence de Yaya Jammeh de 1994 à 2017. Elle est une des responsables de la coalition qui a soutenu la candidature d'Adama Barrow, élue le 1er décembre dernier. Fatoumata Diallo Tambajang succède à une autre femme, Aissatou Ndiaye Saidi, qui était vice-présidente depuis 1997. Aucun calendrier n'était encore disponible sur les prochaines nominations, alors que selon le conseiller de M. Barrow, Maï Fati, les conditions de sécurité sont encore insuffisantes pour son retour.
Politique en RDC, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, évacué ce mardi du pays à destination de Bruxelles pour se faire soigner, est un habitué des séjours en Belgique pour raisons médicales. Il a quitté Kinshasa aujourd'hui alors que son parti négocie avec la majorité soutenant le président Joseph Kabila un partage du pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle dans le pays. Le départ du vieil opposant affaibli pourrait compliquer ses négociations visant à trouver une sortie pacifique à la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà du terme de son mandat qui a expiré depuis le 20 décembre. Et puis au Burundi, plus de 300 prisonniers, dont 58 militants du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD, d'Alexis Sindouidje, aujourd'hui en exil, ont été libérés hier de la prison de Mpimba à Bujumbura par grâce présidentielle. Au total, 2500 prisonniers sont concernés par cette décision du président burundais. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La jauge lisait sur les filles, femmes et jeunes hommes qui venaient de passer presque 2 ans dans la principale prison de Bujumbura, Mpimba, dans les quartiers de Moussaga au sud de la capitale. Certains avaient été arrêtés le 8 mars 2014 alors qu'ils étaient en réunion dans leur permanence nationale. Ce jeune homme, surnommé Moto, est parmi les 300 personnes libérées. Il ne cache pas sa joie, mais demande que la grâce présidentielle s'étende à d'autres prisonniers qui sont plus de 10 000 dans les différentes geôles du Burundi.
Je suis très content de la grâce présidentielle qui vient de nous libérer, de nous pardonner. Nous étions innocents. Nous sommes très contents. Mais nous avons des frères qui ont été incarcérés pendant les manifestations d'avril 2015. On les a traités de rebelles qui ont attaqué des camps alors que ce n'est pas vrai.
13 prisons du Burundi qui ont une capacité d'accueil de plus de 4 000 détenus contenaient l'année 2016 une population pénitentiaire de presque 10 000 personnes, soit plus de la moitié. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.